I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Aurore Berger, la patronne des députés Renaissance à l'Assemblée nationale, recommande à ses collègues de ne pas disputer un match de football caritatif programmé ce soir à 18h au motif que des députés du Rassemblement national seront sur le terrain. Sans doute ont-ils le choléra ou la peste, maladie hautement contagieuse, moins cependant que la bêtise qui a contaminé Madame Berger, mais aussi les partis de gauche, ce qu'on nomme les forces de progrès et qui progressent effectivement chaque jour dans la crétinerie. La France insoumise ne jouera pas ce match de football comme le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe Écologie Les Verts, en fait tous les députés de la NUPES, ils déclarent forfait. Si le ridicule tuait, Madame Berger et ses torquemadas de cour d'école disparaîtraient sous la terre sans que personne ne s'aperçoive de leur absence. Chacun mène les combats qu'il peut. Madame Berger a choisi le dérisoire, l'accessoire et l'anecdotique. Il est 9h, Audrey Berthaud.
L'hôpital en France, selon une étude du ministère de la Santé, plus de 4300 lits d'hôpitaux ont été supprimés en 2021. Au total, c'est 21 000 lits qui ont disparu en 5 ans entre 2016 et 2021. Les principales raisons de ces suppressions, l'épidémie de Covid et le manque de personnel. En Ukraine, les autorités pro-russes des régions de Zaporijia, Kherson, Lugansk et Donetsk revendiquent la victoire du oui en faveur d'une annexion par la Russie. Après la publication des résultats des référendums d'annexion, Volodymyr Zelensky a déclaré que son pays agira pour défendre son peuple. De son côté, l'Union européenne a dénoncé des scrutins illégaux. Enfin, l'ouragan Yann a plongé Cuba dans le noir. L'ouragan de force 3 a causé de nombreux dégâts et a coupé l'électricité partout dans le pays hier soir. Les 11 millions d'habitants ont dû s'éclairer à la bougie. Les dégâts sont innombrables depuis son passage, mais aucune victime n'est à déplorer pour le moment.
Eugénie Bastier, Dominique Jamais, Éric Nolot et Alain Jakubowicz sont là. Bonjour, on en est là donc en France en train de parler d'un match de football annulé, qui était un match caritatif au profit d'une association Île Enfance pour aider les enfants qui sont harcelés à l'école. Et il y a eu donc cette injonction de Madame Berger, mais aussi des partis de gauche, de ne pas être sur le terrain avec les députés du Rassemblement National. On écoutera Marine Le Pen dans une seconde, mais voyons tout d'abord le sujet.
Les députés de la France Insoumise et du Parti Socialiste resteront finalement au vestiaire. Ils refusent de participer à un match caritatif prévu ce soir, car selon eux, la présence de députés Rassemblement National pourrait servir à banaliser l'extrême droite.
Il n'y a pas la volonté chez moi et chez d'autres, vous l'avez entendu, de partager ce moment, parce que ça n'est pas que du football, c'est aussi une opération de communication, une opération politique, et pour nous, il n'est pas envisageable de se retrouver dans la même équipe.
Pour le co-capitaine de l'équipe des parlementaires, cette décision est une instrumentalisation politique qui n'a pas lieu d'être lors d'un événement caritatif.
Voilà comment on prend en otage une équipe qui vient pour la bonne cause, où on pourrait apporter une image autrement plus, je dirais, louable que celle parfois qu'on renvoie, et j'en suis, au sein de l'Assemblée.
Le Rassemblement national dénonce un sectarisme regrettable de la part des députés de gauche, arguant que la cause devrait être plus importante que l'étiquette politique.
Avant de vous donner la parole, écoutons Marine Le Pen qui était sur RTL ce matin.
C'est un concours de ridicule. Les premières victimes sont les enfants d'ailleurs, qui devaient bénéficier, bien entendu, des recettes de ce match caritatif.
Alors le match aura lieu, Marine Le Pen.
Le match aura lieu, mais enfin, s'il n'y a ni les députés Renaissance, ni les députés LFI, ni les députés PS, il va rester peut-être quelques LR, si tant est qu'il y ait des joueurs de foot chez LR, et députés du Rassemblement National. Ce que je veux dire, c'est que ça en dit long sur ces gens. En réalité, c'est la haine tout le temps, partout. On avance dans la bêtise. C'est ça la réalité. Ils avancent dans la bêtise. Quant à Renaissance, ils sont dans le suivisme. Je ne sais pas si c'est pire ou moins grave que le comportement de la France insoumise.
Alors, Karl Olive, lui, est un député de la majorité, a priori. Il est le maire de Poissy. Il était le maire de Poissy. Il est toujours député. Il est aujourd'hui député, donc, de la majorité, je le répète. Et c'est plutôt un homme de bonne volonté, comme on dit. Il vient régulièrement sur ce plateau. Et c'est lui qui était à l'origine de l'organisation de cette rencontre. Et il n'est pas sur la même ligne, manifestement, que Mme Berger.
À la mi-juillet, il y a une décision de cette équipe de France des parlementaires de jouer un match caritatif. Vous l'avez rappelé, Julien Pasquet, juste ce titre. E-Enfance, chèque de 35 000 euros grâce aux partenaires. Donc le 28 septembre, c'est demain, je fais un peu de pub, hein, 18h30 au stade Émile Antoine. Au pied de la Tour Eiffel. Tout le monde est concerné. Toutes les sensibilités sont concernées. Donc depuis le début août et depuis il y a à peu près 3 semaines, tout le monde sait. La liste des joueurs, il y a une quarantaine de joueurs qui sont listés, toute sensibilité politique, il y a 4 joueurs du Rassemblement National, il y a 5 joueurs de LFI, il y a une personne de gauche socialiste qui est présente, tout le monde le sait. Et puis hier, qu'est-ce qui se passe? Il y a peut-être une élection en Italie, il y a peut-être des problèmes de famille avec l'équipe de M. Mélenchon. Catastrophe, on ne peut plus jouer. Crime de lèse-majesté. Mais moi, je vais vous dire, vous voulez que je vous parle franchement, le diktat de la France insoumise, ça suffit. Voilà comment on instrumentalise. Voilà comment on prend en otage, une équipe qui vient pour la bonne cause, où on pourrait apporter une image autrement plus, je dirais, louable que celle parfois qu'on renvoie, et j'en suis, au sein de l'Assemblée. Encore une occasion finalement raté de la France insoumise. Et je vais vous dire, je suis très en colère parce que je pense aux organisateurs, ça fait des mois et des mois qu'ils préparent cela. Je pense à cette association, ça fait des mois et des mois.
Le match ne peut pas avoir lieu ? Ils vont être remplacés ou pas ces joueurs-là ? C'est les LFI et PS qui ne viennent pas.
Parce que vous connaissez le football, il y en a 11 sur le terrain, il y en a 40 sur la liste, sur la feuille de match. Bon. Je pense qu'on va pouvoir fumer sous la douche, hein. Vous voyez ce que je veux dire, comme disait Coluche.
Alors, il n'y a pas que le diktat de la France insoumise, il y a également son propre camp, la patronne de son propre camp, Aurore Berger.
Bah, il fut un temps dont on a le droit d'être nostalgique, où le football était un sanctuaire, c'est-à-dire pouvait cohabiter des gens de toutes origines, de toutes classes sociales, de toutes croyances politiques ou religieuses. Les uns et les autres, nous avons peut-être pratiqué ce sport et nous avons pu le vérifier. Mais là, on a changé de doctrine, puisque la doctrine de la France insoumise, c'est qu'il faut tout conflictualiser. Eh bien, même une cause caritative, même le football doit être conflictualisé. Et comme... Eh bien, l'accord de la NUPES est basé sur la génuflexion de toutes les autres forces de gauche par rapport à la France insoumise, eh bien, on le voit se vérifier dans ce cas. Donc c'est malheureusement toute cette gauche morale qui prend n'importe quel prétexte, aussi futile soit-il, pour prendre des postures, ça ne fera avancer rien du
mais
tout.
Mais ça les dessert surtout, ça sert le Rassemblement National, ça qui apparaît très tolérant depuis 3 ou 4 mois.
Ça les ridiculise.
Alors que vous avez des partis en face qui prônent effectivement une forme d'intolérance et pourquoi parfois de haine.
Vous parlez du football, mais il y a de moins en moins de lieux dans la société où il est possible de transcender les désaccords et de se réunir sur quelque chose qui dépasse finalement les appartenances politiques. Et ces lieux ont tendance à disparaître. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espace où on raccroche ses opinions en vestiaire et on peut, comme ça, communier avec quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord. Et je trouve ça triste et même préoccupant, qu'il y ait de moins en moins de lieux comme ça.
C'est l'intolérance de la NUPES, l'intolérance de la France insoumise, le sectarisme de ces gens-là.
Et de Renaissance aussi, c'est quand même assez.
Madame Berger, elle ne représente qu'elle-même, j'ai envie de dire.
Elle a quand même un rôle important.
Mais elle représente qu'elle-même. Karl Olive est sur une. C'est bien son problème, elle ne représente pas grand-chose.
Après, il y a la question de la normalisation du Rassemblement National derrière. C'est est-ce qu'on considère que le Rassemblement National est une force politique à part entière?
Les Français le considèrent.
Le Français le considère, évidemment.
Considère manifestement l'avis de Madame Berger, et de ces esthètes là, on s'en moque. Les Français considèrent ça, ils ont voté, ils ont
bien
mis 89 députés.
Ce décalage entre l'élite politique et ce que pensent les Français est préoccupant et creuse.
Tour de table.
Écoutez, il y a dès le départ une chose curieuse. Précédemment, le Front National avait 5 députés, 6 députés. Et à ce moment-là, il n'y avait pas d'ostracisme.
Oui, parce que Louis Alliot a joué
au football.
Au rugby, avec Alexis Corbière, il a joué avec Alexis.
Aujourd'hui,
Corbière.
Il a 89 députés et ils sont exclus. Et ce dont ne se rendent pas compte les sectaires, c'est qu'ils ne considèrent pas seulement comme des sous-députés, comme des députés non légitimes, un député sur 7, Mais ils insultent un électeur sur 4 ou 5. C'est quand même extraordinaire, parce que ce qu'ils disent, c'est au-delà des députés, il y a un quart des électeurs, un quart des votants qui votent pour un parti que nous considérons comme non légitime, comme non légal, alors qu'il est légitime et légal. Et puis, dernière chose, si vous permettez, c'était un peu surprenant de la part de la France insoumise, voire du Parti communiste, je ne connais pas l'attitude de Fabien Roussel à ce propos-là, mais ce sont des gens qui manquent de mémoire et qui manquent de prudence. De mémoire parce que sous la 4e République, pendant des décennies, les communistes étaient exclus de la même manière, communistes pas français, ils ne sont pas à gauche, ils sont à l'Est, et il y avait un quart des électeurs et un quart des députés qui étaient considérés comme non existants. Et ils manquent de prudence parce qu'ils justifient d'avance les mesures qu'un Front National, qu'un Rassemblement National, éventuellement au pouvoir, pourrait prendre dans le même registre.
Anna Jakubowicz, quand vous vous taisez, je me dis que vous ne pensez pas comme le plateau.
Écoutez, moi j'ai entendu ce que disait Éric Nolot. C'est sûr que la politique a changé, mais le football aussi. Finalement, ça montre quoi ? Que la politique ressemble de plus en plus au football, à moins que ça soit l'inverse, le football qui ressemble de plus en plus à la politique. C'est des coups bas, c'est ne pas vouloir jouer avec tel ou tel. Ça ressemble un peu au PSG, tout ça. Hein. Le tacle de Madame Rousseau à Monsieur Bayou, au sein de la même équipe. Hein, au sein de la même équipe. Franchement, moi, je trouve ça... Ce qui me gêne dans cette histoire, c'est l'instruction qui est donnée. Que tel ou tel député n'ait pas envie de jouer avec tel ou tel autre député, quelles qu'en soient les raisons d'ailleurs, quelles qu'en soient les raisons. C'est pas la même chose. On se retrouve dans l'hémicycle, on se tape dessus, on n'est pas d'accord. On peut ne pas avoir envie de se retrouver sur un terrain, de faire la passe, de jouer ensemble, de l'entendre, de faire semblant d'être bon copain, alors qu'on ne l'est pas du tout. Donc individuellement, ça ne me choque pas. Ce qui me gêne là-dedans, c'est l'instruction, c'est la posture de principe qui, pour moi, est extrêmement choquante.
Mais pourquoi ?
C'est le monde actuel ?
Non, c'est pas le monde actuel, justement. C'est le monde médiatique, ce qui est déjà différent. Madame Berger, qui est dans la posture, dans l'espace médiatique, elle s'achète une sorte de virginité pour dire à l'espace médiatique, elle sera mieux traitée dans Libération, elle sera mieux traitée sur France Inter, elle sera mieux traitée sur le service public, elle sera mieux traitée sur le service public. Et comme ces gens en général n'ont aucun courage, aucune conviction, on le sait, aucune opinion parfois, aucune décision aussi, mais elle...
Pour le coup, ils ont le courage précisément de ne pas aller dans le sens que vous indiquez.
Ah non.
Ils ont,
pas de courage, c'est l'exact contraire.
Quand même, c'est
plus facile pour Madame Berger de prendre cette position dans l'espace médiatique où chacun saluera une forme de courage. Quelle résistance ! Tu n'es pas allé jouer sur un terrain de football. Vraiment, c'est De Gaulle à Londres. C'est ça.
D'autant parce que nous savons très bien.
Bon, tout ça est du cirque.
Ils boivent des coups ensemble.
Mais tout ça est du cirque. Et madame,
ils se tutoient. Donc ils veulent pas jouer au foot devant les caméras. Mais quand il n'y a pas les caméras, ils copient.
Ça, c'était avant. Je pense que dans la polarisation actuelle, ce n'est plus vrai.
Tout ça est du cirque et du théâtre. Et madame Berger ne s'est pas grandie, je le répète, en faisant cela. En revanche, on va écouter Carl Olive.
Temps, on met le projecteur sur le cirque et franchement, c'est quand même pas une affaire d'État non plus.
Oui, vous avez... Ah, c'est révélateur.
Hein ? Oui.
C'est révélateur parce que c'est mépriser quand même tous les Français qui ont voté pour le Rassemblement National. Bien sûr. Mais pourquoi ?
Il n'y a aucun mépris pour les gens qui ont voté.
Je rejoins ce que disait Dominique Jamais.
C'est une ligne. Finalement, ils sont cohérents avec eux-mêmes. Je veux dire qu'il faut...
Par renaissance, la preuve, c'est que Carl Olive ne dit pas la même chose. Écoutons Carl Olive, ce qu'il a dit de Madame Berger.
C'est heureux de voir qu'il ne s'est pas monolithique non plus, heureusement.
Carl Olive.
À sa décharge, la présidente du groupe n'avait pas connaissance depuis 3 semaines, effectivement, de la liste des joueurs. Après, je vais vous dire, moi, je suis pas Renaissance, comme un certain nombre de collègues, pour être un député Godillot. Il y a plusieurs sensibilités. Elle interdit pas. Elle recommande de ne pas y aller. Bah, soit.
Bon, il n'est pas sur cette ligne. Alors, quelques réactions. On va écouter notamment Olivier Faure, monsieur... à 73% qui a vendu son âme et son parti à l'ANUPS et qui effectivement, là pareil, fait un acte de résistance, pense-t-il extrêmement fort, il ne jouera pas sur le terrain de football.
Qu'il résiste.
Ah non, mais oui, il résiste. Ces gens sont effrayants parfois. Écoutons.
On sera sur un terrain de football, on respectera les règles. Eux décident de boycotter ça, finalement ils ne respectent pas les règles, un peu comme ici dans l'hémicycle.
Nous ne pouvons pas être coéquipiers sur un terrain de foot alors même que Nous faisons tout pour ne pas laisser se banaliser l'extrême droite.
Ça me désole qu'on ne soit pas capable de passer au-dessus de ces clivages.
On va faire croire que nous pouvons être coéquipiers sur le terrain, alors que nous refusons obstinément à l'être dans l'hémicycle. Voilà, on croit qu'il n'y a pas de possibilité d'être coéquipier avec des gens que nous combattons dans l'hémicycle.
Mais nous ne voulons pas participer à, finalement, un objectif de récupération politique par le Rassemblement national pour se banaliser.
Ce qui m'étonne le moins, à la limite, c'est la France insoumise. Ils sont dans leur position. Mais quand j'entends M. Boris Vallaud, quand j'entends Olivier Faure, qui était du PS... Ces gens vraiment, je pense qu'ils ont vendu leur âme à la France insoumise.
Est-ce que demain, par principe, ils ne voteront pas une motion de censure qui serait votée en termes identiques par le Rassemblement national ? Est-ce que le cirque, le théâtre, ça se limite au terrain de football ? Ou ils diront non, le Rassemblement national veut voter une motion de censure, nous ne voulons pas mêler nos voix au Rassemblement national ? Bien sûr que non. Donc tout ça n'a aucun sens, c'est de la posture. Et moi, je trouve que vous mésestimez un peu l'importance de cet épisode, parce que ça atteste quand même d'une dégringolade morale, éthique.
Mais non, mais c'est surtout le symptôme, à mon avis, c'est plutôt le symptôme que, effectivement, comme le Rassemblement national se banalise dans les faits, eh bien,
ça veut rien dire, se banalise,
se normalise.
Se normalise
dans les faits.
C'est les Français qui décident.
D'accord, mais bon,
faites
pas semblant de ne pas comprendre ce que je dis. Je dis juste qu'il se banalise dans les faits. Il est normalisé à l'Assemblée, il est présent, oui. Il est dans la vie publique. Oui. Il y a une réaction d'hystérie, une hystérisation du cordon sanitaire en réaction à cette banalisation. Oui. Ce sont les derniers
qu'on
feux.
A eu d'ailleurs pendant les...
Ce sont les derniers feux d'un monde qui s'écroule, oui. Qui était celui où le Rassemblement national n'avait été banni de la vie publique.
Emmanuel Macron a agité le même chiffon rouge entre les deux tours.
Et précis.
Bien sûr, mais c'est d'où l'ambiguïté de Renaissance. On ne sait pas sur quelle ligne ils sont. Ils ne savent pas sur quel pied danser.
Dominique Jamais.
Vous mettez l'accent sur un autre aspect de cette affaire qui est plus importante qu'elle n'a l'air. Une fois de plus, on voit l'aveuglement dont sont capables ces gens. Ils voient, il y a 8 jours en Suède, il y a 2 jours en Italie, l'effet de leur politique, l'effet de leur façon de faire. Ils voient qu'il y a un glissement du peuple, oui. Tout simplement, vers la droite, voire vers l'extrême droite, dans un certain nombre de pays. Il en est de même chez nous. On le voit, on le sent. Et ils reproduisent exactement les mêmes recettes, les mêmes comportements qui expliquent pour partie leur dégringolade.
Évidemment.
Ça aura les mêmes effets à terme.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet, en tout cas. Mais souvent, là, comme je commence à bien connaître Alain Jakubowicz, très souvent, les sujets que je lui propose, il me dit « Écoutez, franchement, c'est pas intéressant, ces sujets-là. C'était, franchement, il y a des choses plus graves. Franchement, c'est dérisoire. » Alors, justement, un sujet pour vous. Ah. Et alors là, je l'ai dit hier, bravo. Bravo qui ? Bravo le ministre de la Justice.
Dupond-Moretti.
Bravo, monsieur Dupond-Moretti.
Ah oui ?
Bravo. Courageux. Précisément.
Non, pas courageux.
Si.
Enfin, il fait le job, il rappelle quand même des choses mais qui sont quand même... Enfin, il est le ministre de la Justice, oui. Il rappelle ce qu'est la justice, il rappelle ce qu'est l'état de droit, il rappelle ce qu'est la démocratie. Oui. Enfin, franchement, c'est le minimum syndical.
Et bien, c'est devenu courageux. Pourquoi ? Oui. Parce que, absolument. En sous-texte et en filigrane, tu attaques la parole des femmes.
Écoutez, moi, j'aimerais bien, d'ailleurs...
Et tu attaques, savez, en sous-texte, ma, savez, Sandrine vous, Rousseau. Et attaquer Sandrine vous savez Rousseau combien, et la parole des femmes, ça devient très courageux.
Vous savez combien notre langue m'est chère et oui. Combien les mots ont de l'importance pour oui. Moi. Arrêtons de parler de courage ici. Le courage, c'est effectivement les Russes qui refusent d'aller. Hey. Le courage, c'est les femmes iraniennes. Nous, le courage ici, franchement, eh bien, franchement, nous parler de courage là, nous parler de courage quand on rappelle des évidences et des truies, ceci étant, je souscris totalement à son
on
discours.
Va l'écouter.
Totalement.
On va l'écouter.
Totalement. Mais enfin bon, le et terme bon. De courage est peut-être un peu exagéré.
Eh ben, en tout cas, on a parfois
un peu exagéré aussi de parler du courage des gens qui désertent.
Ben si, ah. Il en faut.
Oui, mais peut-être oui. Moins, peut-être moins que pour d'autres comportements.
Bon, ça c'est une question.
Bah, écoutez, voilà, je suis pas du tout d'accord avec vous, mais enfin, non, mais je moi, pense qu'on n'est pas
mais,
sur ce sujet-là maintenant.
Je suis pas du tout d'accord avec vous non plus.
Ben voilà, mais c'est.
On est là pour ça.
C'est translatif ce genre
c'est
de choses.
Principalement, pourquoi je vous invite, voilà. Si vous me permettez.
Mais pas jouer au foot
bon,
ensemble.
En tout cas, on a parfois, souvent, toujours dit du mal de Monsieur Dupond-Moretti depuis le départ de ses fonctions. Eh bien là, on va saluer. Ce qu'il a oui. Dit de manière remarquable hier, et il a sifflé, comme il le dit, la récréation sur ces sujets-là. Il a dit ce que vous disiez l'autre jour, d'ailleurs, hein, avec beaucoup d'intelligence et de nuance, comme toujours. Éric Dupond-Moretti.
Je pense qu'il est temps de siffler la fin de la récréation. On ne joue pas avec nos institutions. La libération de la parole de la femme, oui, même au travers des réseaux sociaux. Pour autant, les réseaux sociaux ne peuvent pas être l'unique réceptacle sans filtre de cette parole et la justice doit intervenir. On est en train, là, de créer une justice de droit privé qui n'a strictement aucun sens. C'est mortifère et délétère pour les grandes institutions qui sont les nôtres et en particulier pour la justice que je veux défendre. Il n'y a pas de code de déontologie mis en place par tel ou tel parti. Il y a la justice et il y a un code pénal.
Je vous assure, je crois que c'est la première réaction politique suite à l'intervention de Mme Rousseau sur un plateau de C'est à vous qui a condamné M. Bayou. Je crois que personne ne s'était exprimé avant.
Et c'est une variation sur la fameuse blague là, du type qui saute du 20e étage et arrivé au 15e, il dit jusqu'ici tout va bien. Là, Éric Dupond-Moretti, il est au 15e étage, il dit là ça commence à aller très mal. Il faut stopper la chute, stopper la dégringolade parce que la France Insoumise et les Verts ont institué un système de justice parallèle et puis surtout à vitesse très variable. C'est-à-dire il y a eu un cas avec Tahabouaf, ça s'est réglé d'une certaine manière, avec Julien Bayou d'une autre manière. Donc en fait, ils rendent la justice exactement comme ils veulent en négligeant absolument le droit commun, le droit qui s'applique à nous. Il y a un droit d'exception qui s'applique à ces gens-là. Mais c'est pas possible. Et évidemment, c'était au ministre de la Justice quand il doit rappeler ces principes.
Avec une indulgence médiatique... Parce que quand je dis « il prend la parole », les éditorialistes français sur le Sandrine Rousseau ont été assez indulgents.
Alors que c'était sidérant.
Bien sûr.
C'était sidérant.
Bien sûr. Mais bon, Sandrine Rousseau, elle a le totem d'immunité, manifestement, espace médiatique.
Je pense quand même qu'elles sont allées trop loin sur cette affaire Bayou, les néo-féministes, et qu'il a raison de dire la fin de la récré, parce qu'il est possible... qu'on assiste à une sorte de backlash, parce qu'elles sont allées vraiment très très loin. Faire passer Julien Bayou pour un prédateur, je pense que personne n'y a cru. Et je pense que cette affaire a été la goutte d'eau de trop du MeTooïsme vindicatif et émotif des réseaux sociaux. Et je pense que là, elles sont allées, elles ont fait un pas trop loin. Et on verra ce qui va se passer. Mais qu'une partie d'En Marche et de Renaissance réagissent, c'est le signe que finalement, il y a une sorte de réveil collectif face aux dérives du néo-féminisme et du mouvement MeToo qui
est
effectivement...
Là, on est dans le torrent. Hein. On est dans le torrent parce que ce genre d'éléments, il se multiplie. On parle de M. Bayou parce que M. Bayou est un homme connu, est un homme public, mais ce genre de situation, elle se reproduit tous les jours et de façon considérable. Nous, on le voit au niveau judiciaire. C'est-à-dire... Ce genre d'excès, ce genre de situation où on traîne les gens, on dépose des plaintes dans tous les sens, où, enfin, il y a une judiciarisation de tout ça, de la relation humaine, de la relation amoureuse. Il faut voir comment, ce qui se passe derrière.
Ça, vous avez des témoignages
C'est pas des témoignages, c'est ce qui se passe dans nos cabinets. On voit ça.
Ah non, mais dites-moi, est-ce que ça m'intéresse
C'est-à-dire que la moindre chose devient aujourd'hui. Alors, encore une fois.
Par exemple. Un exemple d'une femme qui est venue dans votre cabinet.
Notamment chez les jeunes gens. Nous, on a au sein du cabinet un nombre important de jeunes gens, des jeunes qui font la fête, qui font... Alors, on est dans une situation un petit peu différente, mais puisqu'on parle de MeToo, où les choses... Il y a une relation qui va se passer, qui est souvent sous fond d'alcool, souvent dans le milieu étudiantin d'ailleurs, des étudiants. Et puis le lendemain, la jeune fille qui va déposer une plainte, qui va être prise en main par des associations, qui va dire « finalement, j'étais pas tout à fait d'accord, je ne sais pas vraiment si, etc. etc. » Le jeune homme se retrouve en garde à vue. Des exemples comme ça, on en a mais des dizaines et des centaines se retrouvent en garde à vue, pas toujours mis en examen parce que la justice est très prudente, mais on a des gamins qui sont complètement déstabilisés. Alors sans doute y a-t-il des excès, sans doute y a-t-il des faits qu'il faut dénoncer. Encore une fois, moi je suis pas sur le, mais il faut voir ce qui se passe quotidiennement dans la réalité quotidienne de la relation humaine. Qui moi, c'est vrai, il y a un problème générationnel aujourd'hui dans la relation aux autres et notamment pour les jeunes gens, c'est effrayant.
La relation amoureuse, vous voulez dire
Oui, mais au-delà de ça, parce que aujourd'hui,
la relation de séduction, la relation de drague.
On consomme le sexe aujourd'hui autrement qu'on le consommait, pardonnez-moi, parce que c'est pratiquement devenu un produit qu'on consommait il y a quelques décennies. Les relations sont plus les mêmes entre les jeunes gens, et notamment des jeunes filles aujourd'hui qui mènent leur vie de femme, et elles ont parfaitement le droit. Mais ensuite, est-ce que j'étais bien d'accord?
D'ailleurs, les deux sont liés.
C'est assez terrible.
Les deux sont liés. Le marché et le droit, vous le savez, sont liés. Et la marchandisation du désir aboutit à la judiciarisation du désir.
Vous avez raison.
Et les deux
dans les années 80, si vous me permettez, quand j'avais 18 ans, c'était déjà très libéré quand même.
Pour les hommes.
C'est vrai que ça a changé.
Je parle dans les années 50, manifestement, nos parents nous disaient que ce n'était pas libéré. Mais dans les années 80 et 90, j'avais 18 ans dans les années 80. c'était quand même très libéré, me semble-t-il.
Vous n'avez pas les réseaux sociaux Tinder, la manière de l'infini des possibilités.
Monsieur Dupond-Moretti est exactement dans son rôle, dans le rôle qu'il doit avoir. Et il a dit le droit, hein, oui, comme on dit en justice, tout simplement, bravo, il l'a rappelé. Et il n'était que temps, car ça commençait à aller très loin. Puisque l'on voyait s'installer un système de justice, entre guillemets, de justice révolutionnaire, où les mêmes personnes étaient juge d'instruction, puis procureur, puis président du tribunal. Absolument. Et ce qui est gravissime, comme on le voit chez les écologistes à l'heure actuelle, c'est qu'on allait peu à peu, insensiblement, vers un type de réaction qui rappelle les procès de Moscou, avec l'accusé qui dit « Ah oui, c'est vrai, je suis coupable, ils ont raison de m'accuser, du coup je démissionne. Monsieur Bayou s'est peut-être ressaisi,
fait,
mais
Katnas.
Dans un premier temps, il
mais M. Katnas, il a reconnu, c'est encore différent. Mais on va marquer une pause, Dominique.
Mais,
on marque une pause.
Bayou,
très vite, on marque une pause.
Très vite. Bayou contestait absolument, un, qu'il ait fait quoi que ce soit de mal, et deux, qu'on introduise le concret, le délai de violence psychologique qui est sans fin. Et pourtant, il démissionnait.
Très vite.
C'est un vrai sujet.
Oui, mais la pause, ça, c'est un vrai sujet aussi. On a dévié un peu la conversation sur le consentement et peut-être qu'on pourra terminer là-dessus après la phrase de Éric Dupond-Moretti qui sifflait à juste titre la fin de la récréation. Mais comme il est 8h30 et même qu'il est 9h30, puisque tout augmente, eh bien c'est Audrey Berthaud qui va nous rappeler les titres.
Après une embellie en août, le moral des ménages français est reparti à la baisse au mois de septembre. Information de l'INSEE ce matin. Les ménages français sont notamment pessimistes sur l'évolution de leur situation financière, personnelle et également sur l'évolution du chômage en France. Qui est responsable du sabotage des gazoducs Nord Stream ? Cette nuit, l'Institut sismique suédois a réfuté la thèse accidentelle. Après les deux mystérieuses explosions sous-marines, on peut voir sur ces images que les fuites de gaz sont visibles à la surface, avec des bouillonnements allant jusqu'à 1 km de diamètre. L'Union européenne a promis une réponse ferme au sabotage. Enfin, le texte manuscrit d'un tube de David Bowie vendu près de 230 000 euros. Il s'agit de Starman, tube de 1972, écrit donc par David Bowie. Dans ce fameux texte, écrit à l'encre bleue sur une feuille A4, on peut voir des ratures et des fautes d'orthographe. L'acheteur est un collectionneur privé.
Nathalie Cricorian Duronsois, qui intervient souvent dans notre émission de manière de SMS, me dit « Vous avez raison, les années post-68 étaient très libérées, mais nous étions en mode peace and love, faites l'amour pas la guerre. Aujourd'hui, souvent dans la tête de nombreux jeunes gens, la sexualité est déconnectée des sentiments. La diffusion et je dirais la démocratisation de la pornographie a développé dans les esprits une vision du sexe pour le sexe », dit-elle.
Prolonger ce que disait Dominique Jeannet qui parlait de procès de Moscou. Mais on a franchi encore un cap, parce que ni à Moscou, ni dans les romans de Kafka, on ne disait à l'accusé « il n'y a rien de répréhensible ». Parce que oui. Mme Rousseau dit en plus oui. « il n'y a rien de répréhensible ». Là, on disait « vous êtes coupable ».
On dit un peu ça dans l'archipel du Goulag, ça commence comme ça. C'est-à-dire qu'on frappe à n'importe quelle porte et ils ne savent pas pourquoi.
D'accord, mais on ne lui dit pas ça. On ne lui dit pas « vous n'avez rien commis de répréhensible, on va quand même vous envoyer au Goulag ». On dit « vous êtes coupable ». Là, Mme Rousseau exécute M. Bayou en disant « de toute manière, il n'y a rien à lui reprocher sur le plan légal ». Donc là, si M. Dupond-Moretti, en entendant ça, n'avait pas réagi, ça aurait été quand même extrêmement inquiétant
pour notre
démocratie.
Bon, le consentement, juste un petit mot sur le consentement, parce que c'est intéressant, le consentement.
Oui, je pense que, d'ailleurs, j'avais intitulé mon livre « Le port émissaire, terreur ou contre-révolution ».
Le port, P-O-R-C.
Le port émissaire, oui. Et vous analysez le phénomène MeToo. À la fois, on peut le voir comme une forme de terreur, puisque le néo-féminisme est au féminisme, ce que la terreur est à la Révolution française, c'est-à-dire une exacerbation, une radicalité, et en même temps comme une contre-révolution, parce que ça répond aussi à la révolution sexuelle, et au malaise, je pense, que la révolution sexuelle a induit dans une partie de la jeunesse, et notamment chez les femmes. Et c'est une tentative d'y répondre, maladroite, qui justement instaure une justice parallèle. Mais je pense qu'il y a un vrai malaise derrière, autour de la question de la sexualité et du consentement. Parce qu'encore une fois, la libération absolue, c'est la marchandisation. Et son corollaire, c'est la judiciarisation.
Juste un mot. On vient de parler du coup d'arrêt qu'a donné légitimement, à bon droit et à raison, M. Dupond-Moretti. Mais il y a un autre coup d'arrêt qui est en train de se dessiner et qui est très intéressant. C'est-à-dire que on s'aperçoit, à la lumière de l'actualité, que Mme Sandrine Rousseau instrumentalise la noble cause des femmes et du néo-féminisme pour faire avancer sa carrière politique. Et dans les deux affaires qu'elle a soulevées ces derniers jours,
il y a évidemment la manifestation d'une ambition personnelle. Mmh. Elle déblaye le terrain, mmh. elle envoie bouler Bayou, et ensuite, elle envoie bouler Jadot.
Parce qu'effectivement, il y a l'élection qui arrive. Bon, on change de sujet, si j'ose dire, mais on reste avec M. Dupond-Moretti, puisqu'on parlera de Nantes dans une seconde, mais il a parlé du laxisme, la justice laxiste. C'est souvent ce qui lui est reproché. Il dément, bien sûr. Ouais. Et là, vous pourrez nous dire ce que vous en pensez, puisque vous êtes avocat. Éric Dupond-Moretti.
On est toujours en train de nous dire, enfin certains, toujours les mêmes, la justice est laxiste. On est passé en matière correctionnelle en 15 ans de 6 mois à plus de 9 mois en matière correctionnelle d'emprisonnement ferme. Et en matière criminelle, et ce sont d'ailleurs les Français qui rendent la justice, puisqu'ils appartiennent au jury populaire, on est passé de 14 à 16 ans. Quand on fait une présentation fait diversière de la justice et qu'on s'arrête au quotidien sur de la délinquance qui a pu être commise dans un pays qui fait 67 millions d'habitants, on donne à croire naturellement qu'elle est laxiste. Et certains se régalent avec ces mots.
Oui, mais c'est pas bien parce que la présentation fait diversière. Moi, là, pour le coup, je suis pas d'accord avec M. Dupond-Moretti. Le viol... Allez dire à la dame qui a été violée à Nantes par des étrangers qu'on... Ah, la perceuse est de retour. La perceuse est de retour. La fameuse perceuse. Ah ! La perceuse est de retour. La perceuse est de retour.
Sabotage.
Mais non, pas sabotage. C'est-à-dire que je le dis, alors je le dis à chaque fois, mais nous avons changé de... Nous avons changé
Est-ce
de...
Est-ce que Nord Stream arrive jusqu'ici ou pas?
Nous avons changé de siège.
Oui.
Donc nous avons des installations somptueuses, désormais tout le siège canal, mais c'est vrai qu'il y a encore quelques travaux. Et là, manifestement, donc je dis à Marine Lançon, là c'est difficile Marine, là c'est difficile parce que la perceuse perce. Donc, non, bon...
Faut mettre un écriteau, les émissions continuent pendant les travaux.
Sur la question du laxisme.
Laxisme est fait diversière, je ne suis pas d'accord avec lui. Donc allez dire à la dame qui a été violée par deux présumés innocents, certes, mais étrangers, soudanais, qui n'ont rien à faire sur le sol français et qui l'ont violée, que c'est une présentation fait diversière. Non, c'est un fait de société, je suis désolé de vous le dire.
On est d'accord, mais le problème, ce qui est normal, c'est qu'on met le projecteur sur un certain nombre de dossiers, ceux dont vous parlez sur votre antenne, qui effectivement pose question, pose problème.
Non, mais rien du tout, si l'actualité s'impose à nous, pardonnez-moi, je récuse ce que vous dites.
De là, mais laissez-moi aller au bout avant de le récuser.
Mais non, mais c'est parce que c'est pas vrai.
De là, le généraliser.
Mais personne ne généralise.
La justice est laxiste.
Ah non, ça je dis
pas
ça.
Moi j'invite nos concitoyens, par ce truchement, à aller dans les palais de justice. Vous savez, la justice, elle est rendue au nom du peuple français, et elle est rendue de façon publique, même si... En raison des problèmes de sécurité, c'est de plus en plus difficile d'accéder à certaines audiences. Ceci étant, allez dans les audiences, allez dans les tribunaux correctionnels, allez aux comparutions.
Mais pourquoi les policiers alors disent qu'il n'y a pas de réponse pénale ?
Vous verrez comment la justice est rendue.
Mais pourquoi les policiers disent qu'il n'y a pas de réponse pénale ?
Mais d'abord, c'est pas les policiers, c'est effectivement un certain nombre de syndicats qui font leur travail. Encore une fois, le problème, c'est que tout le monde a raison. Mais moi, ce que je crains toujours, c'est la généralisation. Venir nous dire que la justice est laxiste, ce n'est pas vrai que la justice est laxiste.
Ce n'est pas vrai. D'abord,
Il se trouve que moi, je la pratique tous les
problème,
jours.
Oui, mais le problème de M. Dupond-Moretti, en l'occurrence, c'est qu'on ne sait pas si c'est le garde des Sceaux qui parle ou l'avocat.
Oui, mais bon.
Bon, c'est plutôt les discours qu'il tenait en tant qu'avocat et que maintenant qu'il tient en tant que garde des Sceaux, c'est un peu problématique. C'est pas la même
chose. Moi, il reste ce qu'il était, franchement, moi, je trouve ça plutôt bien, plutôt
fonction,
que l'inverse.
C'est pas la même fonction. Donc,
c'est vrai.
Il me semble que le discours devrait prendre un peu plus de hauteur. Ensuite, moi, je suis pour une révolution copernicienne, en effet, autour du fait divers. Il faut arrêter de traiter les faits divers comme des choses sans importance. Les gens qui se font agresser, c'est un drame pour leur vie.
Bien sûr.
Et ils ont l'impression d'être une statistique dans un tableau général.
Vous avez raison.
Insupportable. Et quand même, je veux bien qu'on tape sur les délinquants, mais combien de cas de multi-récidivistes? Des gens qui ont 40 inscriptions au casier judiciaire et qui sont en liberté. Écoutez, ce n'est pas des cas isolés. Et les policiers, ce n'est pas seulement les syndicats. Il suffit de parler avec un policier. Moi, il m'aborde.
Mais parler avec les juges aussi.
Oui, mais je parle avec des policiers qui me disent, écoutez, on les arrête, ils seront
dehors
48 heures. Je regrette, mais c'est ce qu'ils disent, pas seulement les syndicats, mais les flics de base.
On n'avance pas.
Parler avec les juges aussi.
Non, juste un mot sur la fait diversification de la justice. Ils n'ont aucun problème à faire ça quand il s'agit de parler des féminicides. Quand c'est des féminicides, c'est un fait de société. On peut aussi s'interroger sur... on considère que les féminicides féminicides qui arrivent en France sont un fait de société. Par contre, quand on parle des viols par des étrangers, ça n'est pas un fait de société. Bon, bah, chacun choisit.
Bonne remarque. Refus d'obtempérer hier à Nantes. Alors, vous savez qu'à Nantes, c'est une série noire. Puis, Johanna Roland, d'ailleurs, a parlé ce matin dans le journal Ouest-France. Et elle a expliqué qu'il faut augmenter la sécurité. Il faut augmenter sans doute, oui, la sécurité dans sa ville d'un cran. Effectivement. Et mauvaise série à Nantes, puisque hier, vers 15h, rue des Sables-d'Olonne à Nantes, un conducteur d'un scooter a refusé de se soumettre à un contrôle avant de foncer sur un policier et de prendre la fuite, après ce qui s'était passé samedi où cette femme avait été violée. Donc, dans la foulée et dans un tweet, Gérald Darmanin a annoncé l'envoi de l'unité mobile de CRS 8 qui sera sur place dès aujourd'hui, je pense. Alors, je voudrais qu'on voit le sujet de Michael Dos Santos, mais manifestement, il y a une prise de conscience de ce qui se passe à Nantes, à la fois avec la municipalité et à la fois avec le ministre de l'Intérieur.
Il est près de 15h dans le quartier de Bellevue à Nantes ce mardi. Sur le trottoir, un conducteur de scooter en plein rodéo urbain, sans casque et sans gants. Une patrouille de police décide d'intervenir. Le contrôle tourne court.
L'individu les voit, fonce délibérément sur l'un d'entre eux. L'impact fait en sorte que c'est les deux individus, le collègue et l'individu monté sur le scooter, chutent au sol. Et l'individu reprend le scooter et prend la fuite. Le collègue a été transporté au CHU. Il a une fracture ouverte de la jambe, péronée tibia.
Quelques minutes plus tard, le conducteur abandonne son scooter pour terminer à pied. L'individu reste activement recherché. Les effectifs de police ont été déployés dans ce quartier connu pour le trafic de drogue et les violences.
Le ministre a décidé d'affecter des renforts sur le quartier de Bellevue à Nantes avec des gendarmes mobiles qui vont venir renforcer la sécurité dans ce quartier. Je me réjouis que régulièrement le ministre m'accorde des renforts, notamment en force mobile, en CRS ou en gendarmes mobiles.
Depuis la rentrée, la police nationale de Nantes compte 70 fonctionnaires supplémentaires déployés essentiellement sur des missions de nuit. Un souhait du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, pour sécuriser la ville.
Le ton de Johanna Roland, que dit-elle dans Ouest France Matin ? Je refuse de céder à cette hystérie. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire ? Ça veut dire quoi ? Moi, je rappelle à Madame Roland que depuis samedi, vous avez, dans le quartier des Machines de Lille, une femme d'une quarantaine d'années a été violée. Ça, c'est samedi. Dimanche 25 septembre, un Soudanais de 35 ans a agressé un homme à Nantes en exhibant un couteau et en criant « Allah Akbar, abat les Français, je vais te tuer ». Il était cour des 50 otages, une grande artère à Nantes. Hier, vous avez ce refus d'obtempérer. Où est l'hystérie ? Je refuse de céder à cette hystérie. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Pour certaines personnes, bon. La réalité, c'est l'hystérie.
Bon, et, l'hystérie, c'est la... et elle a ajouté, en revanche, sur la sécurité, il faut monter d'un cran. Donc, en fait, dans son interview, elle dit tout et son contraire. Et c'est un vrai problème, parce qu'elle est à la fois dans le déni, elle est prisonnière de son idéologie, et elle ne veut pas voir la réalité. Je refuse. C'est pas de l'hystérie, Madame Roland.
Je refuse.
C'est la réalité. La réalité qui vous saute aux yeux et au visage.
Un jour, elle sortira du déni, mais il y aura beaucoup d'autres...
Bah, elle sortira surtout, à mon avis, de sa mairie, si vous me permettez.
Oui,
je pense.
Peut-être.
C'est plus ça, parce que les Nantais, je ne suis pas sûr qu'il la réalise si tant est qu'elle se représente le prochain coup. Parce que vraiment, c'est la réalité, elle existe. Bon, voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur Nantes et sur la sécurité ou l'insécurité, sauf si vous voulez ajouter quelque chose.
Oui, je voudrais dire que le malentendu entre la police et la justice, et entre une grande partie de la population et la justice, ne repose pas sur une appréciation réelle des faits. C'est-à-dire que la justice est moins laxiste qu'on le dit souvent, mais la pratique est extrêmement laxiste. Et c'est ça que les policiers ne supportent pas. L'encombrement des tribunaux et l'encombrement des prisons aboutit à ce que d'innombrables peines ne sont pas exécutées, ou qu'elles sont allégées, ou qu'elles sont raccourcies, et c'est ça qu'on ne comprend pas. On le sait bien que les policiers ne peuvent pas admettre, et la population non plus, que quelqu'un qui est multirécidiviste soit amené au poste pour un délit, puis soit libéré et recommence le lendemain.
Bien sûr. Alors, je salue Jean-Marc Morandini, qui demain sera dans cette belle ville de Nantes. Il sera en direct, me dit-il. Alors, je peux lui donner quelques adresses. Bien évidemment, il peut aller place du Bouffet, qui est le lieu. Il peut aller place du Commerce. La place du Commerce est absolument formidable à Nantes, puisqu'elle n'est pas nettoyée depuis des années. Il peut aller place Royale, il peut se balader en ville. Bon, même si demain à 10h, ce sera sans doute assez tranquille. Et puis, peut-être aura-t-il Johanna Roland, acceptera-t-elle de parler à Jean-Marc ou Pascal Bolo. En tout cas,
Jean-Marc Morandini sera en direct de Nantes demain. Dans l'actualité également, le col roulé de Bruno Le Maire. Vous avez vu cette affaire? Bruno Le Maire dit qu'il ne viendra plus en cravate, il sera en col roulé. C'est intéressant, des hommes politiques prennent en charge notre quotidien. Ne souriez pas, parce que c'est important. Écoutez, Bruno Le Maire...
Déjà le président de la République avec 19 degrés, donc c'est... Non, c'est pas ça? C'est pas le président de la République qui va dire qu'il fait...
Oui. Alors Bruno Le Maire, il a dit, par exemple, on l'a interrogé, on lui a dit, quand est-ce que vous allez chauffer votre ministère? Il a dit, tant qu'on est...
Il est chaud bouillant, le ministère.
Tant qu'on n'est pas en dessous 19 degrés, on ne chauffe pas. Bruno Le Maire.
Nous ne mettrons pas le chauffage tant que la température ne sera pas en dessous de 19 degrés. La température qui a été retenue, c'est
pour
19
bientôt,
degrés.
Hein. Oui, mais demain, après-demain,
nous ne serons pas au-dessus de 19 degrés, donc vous ne verrez plus avec une cravate, mais avec un col roulé. Et je pense que ce sera très bien, que ça permettra de faire des économies d'énergie, de faire preuve de sobriété. C'est la manière la plus efficace de passer l'hiver sans avoir à couper l'énergie pour qui que ce soit.
Alors aujourd'hui à Paris, il va faire 16 degrés, donc a priori, il y aura peut-être du chauffage à Bercy.
C'est à l'intérieur.
À l'intérieur, j'imagine quand même.
Ah bah oui, mais quand il dit on mettra le chauffage tant qu'il n'y aura pas 19 degrés, c'est à l'extérieur.
Non,
là, il y a 16.
Il y a un petit différentiel quand même.
Oui, je suis d'accord avec vous, mais bon, il y a 16 degrés dans Paris. Donc il va peut-être mettre le chauffage.
Ça va descendre.
Bon, est-ce qu'il a raison?
Non, mais vous voyez,
moi,
bon,
je pense qu'il a raison.
Est-ce qu'il a raison de dire ça? Est-ce que c'est de la bonne com ou pas? Ou est-ce que c'est infantiliser les gens?
Du 6e, mais je pense qu'il a raison.
Peut-être en col roulé.
Qu'est-ce qu'on aurait dit s'il avait dit moi, je suis désolé, à Bercy, on va continuer à se chauffer comme d'habitude.
Oui, mais je suis d'accord.
Il est bien obligé de montrer l'exemple.
Bien sûr.
Il est bien obligé
donc,
de.
Donc vous trouvez que c'est bien.
Sinon, on ne peut pas demander des efforts aux Français.
Bon, eh bien, très bien.
Com ou pas, c'est de la com en tout cas.
Et puis, oui, mais vous trouvez que c'est bien.
Je trouve ça habile.
D'accord.
Et puis, il faut arrêter d'en faire un drame de le fait de effectivement chauffer à 19 degrés. C'est pas demander des efforts colossaux aux Français d'arrêter
ce. Mais par exemple, vous allez vous chauffer à 19 degrés?
Bah bien sûr, oui.
Enfin, non,
oui, bien sûr.
Et vous avez le chauffage individuel au gaz ou électrique ou c'est un chauffage collectif?
Au gaz.
Chauffage individuel.
Je me renseigne parce que je viens de déménager et j'avoue, j'ai pas encore allumé mon chauffage dans mon appartement.
Vous savez pas si vous avez un chauffage collectif ou un chauffage individuel?
Je pense que c'est collectif. Enfin, je sais pas. C'est pas moi qui m'occupe.
Il n'y a pas de chauffage chez moi.
Alors là, vous me sidérez.
Non, mais Pascal, il n'y a pas de chauffage chez moi.
Pourquoi il n'y a pas de chauffage chez vous?
Parce que c'est un chauffage au sol. Il faudrait tout casser pour le rétablir. Il est en panne. Donc, j'ai pas de chauffage depuis des années.
C'est-à-dire que l'hiver, vous traversez la.
Absolument. Alors, faut se couvrir un peu quand même, l'hiver.
Non, vous n'êtes pas sérieux.
Ah, si, je vous assure.
Mais il y a combien chez vous l'hiver? Il y a 12 degrés.
C'est un petit peu plus quand même.
14 degrés?
Oui, ça doit.
Sans chauffage, 14 degrés.
Mais vous couvrez
l'hiver clément.
Je comprends. Mais ça m'est arrivé de.
Vous faites des dîners chez vous?
Non, j'invite personne à dîner. Mais ça m'est arrivé, par exemple, de lire.
C'est un bon moyen. C'est un bon moyen pour inviter personne.
Mais vous habitez.
Avec un bonnet, par exemple. Ça m'est arrivé de lire avec un bonnet. Non seulement un col roulé, mais un bonnet.
Mais vous êtes en couple? La personne avec qui vous partagez votre vie, elle est.
En couple et avec des chats qui supportent très bien ça aussi.
Non, mais les chats, je veux bien, mais 14 degrés.
Non, puis les chats,
c'est une maison. C'est une maison, ça.
C'est de la peine.
C'est une maison, c'est un appartement?
C'est une maison.
Les chats, ça chauffe leur propriété.
Et vous mettez pas un chauffage d'appoint, rien du tout, truc électrique.
Je prends mes chats, on se réchauffe mutuellement, tout
c'est
ça.
C'est de plus en plus passionnant.
Tout ça fait des.
Dominique Jamais, moi je.
Après, il dit. Jacques Moïse, il n'arrive pas de dire qu'on parle de sujets qui ne sont pas intéressants.
Mais c'est la vie. Pardonnez-moi.
Maître Jacques Moïse, c'est contre la vie.
Mais c'est la vie.
C'est dingue. Il ne veut être que
c'est
dans
ça,
le cimes.
Vous ne respirez que dans les cimes, mais nous aimons. Moi, j'aime la vie de monsieur Onolo.
C'est important, les chats.
C'est important qu'il lise avec un bonnet.
Pardon, je vous prie de m'excuser, ça m'avait échappé, mais.
Dominique Jamais.
Je suis naturellement, comme tout le monde, impressionné et ému par la déclaration et le courage de Bruno Le Maire.
Oui.
Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais je me pose quand même une question, excusez-moi, un peu plus importante que l'histoire du col roulé.
Oui.
On est passé pratiquement sans transition, et j'aimerais comprendre, et je ne comprends pas, on est passé pratiquement sans transition d'un moment, d'une période, où le gouvernement a dit « mais il n'y a pas lieu de s'affoler, les stocks sont reconstitués à 95%, tout va extrêmement bien, nous n'avons rien à craindre », à des déclarations qui affolent progressivement la population. Ça va être un hiver terrible, on n'y arrive pas, on va manquer de gaz. Qu'est-ce qui est vrai?
Olivier Véran était ce matin sur CNews.
Mais non, mais qu'est-ce qui est vrai? Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut? Est-ce qu'on n'a pas ce qu'il faut?
De toute façon, il y a un impératif de sobriété puisque les crises énergétiques vont se multiplier.
Il y a un impératif de vérité qui...
Olivier Véran était sur CNews ce matin. Je répète cette phrase qui paraît étonnante. Olivier Véran était sur CNews ce matin. Bon, il est venu. Oui.
Olivier Véran était donc sur
CNews. Olivier Véran était sur CNews ce matin. Peut-être viendra-t-il sur notre plateau, mais il était avec Laurence Ferrari ce matin. Il est porte-parole du gouvernement et il a précisé quelque chose sur ce point.
Quand on dit qu'il faut faire un effort de sobriété énergétique, ça veut pas dire que la France n'a plus d'énergie. Et ça ne veut pas dire qu'on doit vivre dans des igloos ou considérer qu'on aurait fait un bond en arrière de 50 ans. Et, d'accord, ce n'est pas du tout ça. Vous verrez, ce n'est pas des choses qui font qu'on ne va pas vous demander de vivre dans le froid.
C'est un gadget, donc, le col roulé de Bruno
Le Maire ?
Non, ce
n'est pas du tout ce que je dis. Moi, j'ai si, même porté un col roulé. Non, j'ai porté un col roulé toute la journée hier parce que je suis dans un vieux bâtiment ministériel qui n'était pas encore chauffé et donc il faisait 16. Et ce que j'ai dit, c'est qu'on n'a pas vocation à vivre dans une pièce à 16 degrés. Je veux dire, quand on dit 19, ce n'est pas 16. Bref. Peu importe. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut pas, il faut vraiment que chacun intègre qu'on n'est pas dans un retour en arrière, qu'on va pouvoir se chauffer, qu'on va pouvoir vivre le plus normalement possible et qu'il y a des petits gestes qui suffisent pour qu'on arrive à vivre mieux et à être économe pour la planète.
Après tout, pourquoi pas? Très rapidement, j'ai deux petites choses que je voulais vous montrer, parce que quand je parle de l'indulgence médiatique sur des déclarations des uns et des autres, Clémentine Autain, vous avez vu le tweet de Clémentine Autain sur Didier Lallement? Franchement, j'ai cru que c'était un tweet parodique. La semaine dernière, je me suis fait avoir par un tweet parodique. Mais là, j'ai dit, est-ce que c'est parodique? J'ai vérifié. Bon, l'ancien préfet. Voilà. Alors, vous allez voir, l'ancien préfet de police Didier Lallement a été nommé avant-hier secrétaire général de la maire. Donc, Madame Autain a repris une image, l'ex-préfet de police Didier Lallement nommé secrétaire général de la maire. Elle l'a mis dans son tweet et elle a commenté: quand cessera-t-on de prendre la maire pour une poubelle? Député de la République.
Alors imaginez l'inverse.
Je vous assure, si c'était, là encore, à chaque fois je le dis et chaque matin, le Rassemblement National, les députés, on en pense ce qu'on en veut, sur l'intelligence comportementale depuis le mois de juin, ils ne font pas une faute. Pas une faute. Ils sont dans le respect des institutions, le respect des idées, le respect de la démocratie. On peut ne pas être d'accord avec eux. Là, vous avez quelqu'un qui traite M. Lallement d'ordure. Parce qu'une poubelle, généralement, c'est pour mettre les ordures. Nous sommes d'accord. C'est ce qui est écrit. Ou les déchets. Ce qu'écrit Mme Autain, députée de la République. Tout ça passe dans l'espace médiatique. Mais alors, crème. Vraiment, personne ne souligne nulle part. Personne ne. Ben, c'est
non,
la vie.
Mais non, mais.
Autre chose.
L'inverse. Imaginons que c'est M. Lallement qui fait un tweet comme ça sur Clémentine Autain.
Ah bah là,
alors là. Bon. On en a pour 15 jours.
Non. Et puis dernière chose, parce que avant de parler du voile à l'école, parce que ça m'intéresse beaucoup, hier soir, j'ai fait écouter déjà la petite déclaration de Jean-Luc Mélenchon en 2017 sur la Russie. Est-ce que vous vous souvenez ce qu'il avait dit? Parce qu'évidemment, il y a une mémoire dans le numérique aujourd'hui, donc
c'est beaucoup exprimé sur la Russie.
C'est quelque chose qui est ressorti hier sur les réseaux, et je vous propose d'écouter Jean-Luc Mélenchon qui était vraiment visionnaire sur la Russie.
On veut montrer aujourd'hui, avec une guerre de retard, la Russie comme la cause de tous les maux du monde. Et ça conduit à une sorte de deux poids, deux mesures permanent, car ici on condamne un bombardement qu'on a le bon goût d'oublier là-bas. Tout ça est absurde. Il faut cesser de penser sous le coup de l'événement instantané. Il faut penser dans le long terme ce qui est en train de se passer. Il n'est pas vrai que la Russie soit une menace pour la paix du monde. C'est un mensonge. C'est un acte de propagande destiné à justifier un projet politique en Europe. C'est la construction, comme idéal européen, après le Brexit et après l'échec de tout le reste, d'un bavardage qui appelait Europe de la défense, qui est entièrement construit sur l'idée qu'il faut se regrouper face à une menace qui, à mes yeux, n'existe pas.
C'est toujours intéressant d'écouter ce que les
autres disent. Après, tout le monde peut se tromper.
Mais bien sûr.
Ce qui est problématique, c'est que Jean-Luc Mélenchon continue dans cette voie-là. Bon. Il n'a pas fait son meilleur.
Enfin, on va marquer une pause.
Un système. Il n'est pas vrai que la Russie soit une menace pour le monde. Il n'est pas vrai que Cuba soit une dictature. Il n'est pas vrai que Tahabouaf.
Mais après, il pourrait reconnaître qu'il s'est trompé.
Deux choses à venir. Une note émanant du Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation qui met en lumière la popularité du port du Camis pour les garçons et de l'abaya pour les filles. C'est le voile à l'école, on va en parler tout à l'heure. Et puis on va recevoir Jean-François Bronstein, la religion woke. Les hommes sont enceints, les femmes ont des pénis, les transfemmes sont des femmes, tous les blancs sont racistes, tous les noirs sont des victimes. Si vous affirmez que vous n'êtes pas raciste, c'est que vous l'êtes. La biologie est viriliste, les mathématiques sont racistes, Churchill est raciste, le cher est esclavagiste. De telles proclamations surprennent par leur côté absurde. Elles constituent pourtant les énoncés de base de la pensée woke, W-A-W-O-K-E. Cette pensée éveillée qui tend à s'imposer dans l'ensemble des sociétés occidentales. Alors moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Quand il dit dans les sociétés occidentales, non, dans une minorité, à l'université, oui, parfois dans l'espace médiatique.
C'est elle qui donne le ton.
Non. Oui, mais parce que... Oui, mais on en parlera justement avec M. Bronstein.
On ne peut pas surestimer ça.
Oui, mais c'est des minorités actives.
C'est une idéologie en décomposition.
Comme chaque fois la révolution.
Eh bien, on en parlera justement, parce que c'est passionnant. C'est passionnant. À tout de suite. Jean-François Bronstein est là. La religion, ça veut bien dire ce que ça veut dire, la religion woke. On va en parler dans une seconde. Audrey Berthaud.
12e jour consécutif de manifestation en Iran. Sur ces images que vous allez voir, on peut voir des bâtiments en flammes et une foule de manifestants. Les Iraniens manifestent dans plusieurs villes du pays pour protester contre la mort de Mahsa Amini. La police dit qu'elle s'opposera avec toute sa force aux manifestants. Les poubelles françaises sont trop pleines, c'est le constat fait par la Cour des comptes. En 2019, la production d'ordures était de 1,6 kg par habitant et par jour. L'objectif d'ici 2030 est de réduire cette production à 1,4 kg. Selon la Cour des comptes, du progrès reste à faire tant sur la prévention, sur le tri sélectif que sur le traitement des ordures. Et puis regardez ces images, Pascal, de la Fashion Week à Paris. Hier soir a eu lieu le défilé Yves Saint Laurent au Trocadéro face à la Tour Eiffel. Le styliste a présenté sa collection printemps-été 2023 avec son lot d'excentricités comme cette robe tout en transparence. Une multitude de figures de la mode étaient présentes comme Carla Bruni ou encore Kate Moss.
Très content que la sobriété énergétique n'ait pas atteint le défilé d'Yves Saint Laurent et qu'on puisse voir ça le soir en pleine nuit. Donc on reçoit M. Bronstein, on va évidemment en parler dans une seconde. Les woke, il y a beaucoup de gens d'abord qui ne savent pas ce que ça veut dire woke. À chaque fois je le dis. Quelle serait votre définition pour ceux qui nous regardent du mot woke ?
Malheureusement, ils vont le connaître bientôt. Woke, ça veut dire éveillé, éveillé à plusieurs vérités tout à fait inédites, en particulier autour du genre, c'est-à-dire l'idée qu'on peut choisir son genre indépendamment de son corps, autour de la race, c'est-à-dire que l'idée que si on ne parle pas de race, c'est qu'on est raciste, si on ne tient pas compte de la couleur, c'est justement la preuve qu'on est raciste, et puis la question de l'intersectionnalité, c'est-à-dire un moyen de potentialiser ces deux victimisations de race et de genre. Et puis il y a une thèse moins connue sur laquelle j'insisterai moins parce que c'est la philosophie des sciences quasiment, c'est dire qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de science, il n'y a pas de connaissance objective et il faut remplacer la science par des savoirs situés, des savoirs indigènes, etc.
C'est marrant parce que vous n'avez pas cité ce qui me paraît aussi important dans la religion woke, c'est de prendre des lunettes de 2022 pour juger 1789, pour juger le code noir, pour juger... le passé, et à l'aune des critères que nous avons aujourd'hui, de juger le passé. Donc Napoléon devient un misogyne, par exemple.
C'est en ce sens que je parle de religion woke, c'est qu'effectivement, il y a à la fois l'idée d'une illumination, un éveil nouveau, il ne voit pas le même monde que nous. Il y a l'idée de prosélytisme, convaincre des jeunes, des enfants, etc. Et puis, il y a l'idée de réécriture de l'histoire, l'idée d'une critique radicale.
Mais au sens propre, parfois, parce qu'il y a, par exemple, les dix petits nègres, mais ça ne s'appelle plus les dix petits nègres.
Bien sûr.
Il faut changer.
Ils étaient dix.
Ils étaient dix.
Oui, oui, c'est ça. Il faut changer le langage, puisqu'effectivement, le passé est tout... Le passé blanc, cisgenre, colonialiste, etc., est un passé qu'il faut effacer. Et donc, on en arrive à des gens qui veulent effacer leurs enseignements.
Alors, on en parlera tout à l'heure, mais je voulais vraiment qu'on parle du voile à l'école. Et puis, vous avez des témoignages à nous apporter, Maître Jakubowicz, qui vont nous intéresser. Mais voyons ce sujet, puisque vous le savez, la présence d'insignes religieux à l'école se popularise.
J'ai une technique pour les filles qui vont au collège, au lycée.
Des vidéos comme celle-ci, il en existe des dizaines sur le réseau social TikTok. Des astuces pour contourner l'interdiction du voile à l'école. Dans un document interne, les services de l'État mettent en garde contre des prosélytes islamistes qui encouragent les élèves à porter des tenues religieuses et à prier en milieu scolaire. Ils alertent notamment sur le port du kami pour les garçons, ici à droite, et de l'abaya pour les filles, à gauche. Des tenues habituelles dans les mosquées et dans les fêtes musulmanes, présentées comme légales à l'école par des internautes. Un phénomène pris très au sérieux par le ministère de l'Éducation nationale. En juin, il indiquait que le port de tenues religieuses représentait 22% des signalements d'atteinte à la laïcité, un chiffre en hausse depuis le début de l'année. Les services de l'État ont constaté aussi que des comptes anonymes incitent les élèves à aller au conflit, en témoignant de situations islamophobes, notamment lorsque des jeunes filles se voient refuser l'entrée de leur établissement scolaire à cause du voile. Les principes de la laïcité remis en cause par les jeunes. L'an dernier, un sondage de l'IFOP pour la LICRA démontrait que 50% d'entre eux n'était pas opposé au port de signes religieux à l'école.
Alors c'est un sujet qui vous intéresse, maître Jakubowicz, mais pas qu'à l'école, me disiez-vous il y a quelques instants, c'est également dans les prétoires.
Alors on a un débat au barreau, moi qui me surprend, je ne cache pas, effectivement de jeunes femmes, peut-être de moins jeunes, qui revendiquent de venir plaider avec un voile. Moi, lorsque j'ai appris ça, vraiment, les bras m'en sont tombés, quoi. Je veux dire, un avocat, ça plaide avec sa robe. Point. Final. C'est tout. Et il semblerait que nos barreaux considèrent que c'est un sujet important, dont toute la profession se penche sur cette question de savoir si on doit autoriser. Et moi, c'est vrai que je suis atterré face à ça. Et je suis surtout atterré face au chantage que l'on retrouve de partout, à l'islamophobie. Je veux dire, venir me dire à moi que je suis islamophobe, que je suis raciste, ça fait plus de 40 ans que je me bats contre tous les racismes, toutes les discriminations, et venir me dire ce chantage à l'islamophobie est tout simplement insupportable. Une école, ce n'est pas la mosquée, ce n'est pas l'église, ce n'est pas la synagogue. Le palais de justice, ce n'est pas la mosquée, ce n'est pas une église, ce n'est pas une synagogue. Et je tiens tout de suite à dire que s'il était advenu que des avocats juifs aient voulu plaider avec une kippa, ou qu'un avocat sikh ait voulu plaider avec son turban, ma position serait évidemment rigoureusement la même. Et moi, je suis... Vraiment,
et vous êtes un homme d'une autre époque.
Alors, écoutez,
vous êtes un homme. Je veux dire, c'est bientôt, ça qui est terrible. Bientôt, vous êtes un homme du passé.
On pourra nous dire aussi que les avocates ou avocats ne veulent plus plaider avec la robe parce qu'on nous dira c'est un vieux vestige d'un vêtement religieux. Mais bien qu'il y a 33 boutons qui sont l'âge du Christ. Mais enfin,
Alain, toutes les ma grille de lecture.
Vous avez aussi installé ce climat-là. Je suis désolée en étant à la LICRA.
Mais pas du tout.
La question du racisme, si, parce que vous avez détruit l'assimilation à la française en disant que finalement l'assimilation c'était mal. Mais parce que ça, c'était une violence envers les immigrés. Et le résultat, c'est quoi? C'est le communautarisme. Donc vous avez une part de responsabilité.
Est-ce que vous admettez ça? Non, mais vous êtes peut-être trompé. Non, mais ça, c'est un sujet vraiment intéressant.
Je n'admets pas parce que ça a toujours
été. Comme l'a très bien dit Paul Yonet dans son livre combat, Voyage au cœur du malaise français.
Notre combat a toujours été inverse.
Et qui montre que SOS Racisme avait une chose.
Il ne vous aura pas échappé que je n'ai jamais été président de SOS Racisme et de la LICRA, qui est une association universaliste. Et vous voyez, on a une divergence de fond. On a une divergence de fond entre la France assimilationniste et la France intégrationniste.
Non, mais ça, c'est
la... Mais non, 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 non. Mais nous ne sommes pas d'accord sur ce point.
Vous avez détruit l'assimilation.
Nous ne sommes pas d'accord sur ce point.
Et le résultat, c'est le communautaire.
Mais alors, venir nous dire à nous que nous serions responsables de cette situation que nous avons combattue depuis toujours.
Alain. Je trouve formidable.
C'est aussi terrible que de me dire aujourd'hui que je suis raciste.
Alain, soyons. L'esprit dans lequel est intervenu Eugénie n'est évidemment pas polémique. C'est vraiment... Pas du tout, pas du tout. Je trouve que c'est vraiment un débat de fond.
Je pense que si.
Non mais, elle ne cherche pas à régler des comptes. Je trouve qu'elle dit un truc qui est passionnant, parce que vous-même, au nom peut-être d'idées qui étaient tout à fait intéressantes et sans doute louables, peut-être que vous avez mis le doigt... dans un engrenage que vous n'avez plus.
Peut-être.
Voilà, c'est bien donc.
C'est ça qu'elle veut vous dire.
Vous savez pourquoi je dis ça, chère madame,
qu'on a tout bien fait, je ne le ferai pas, parce que si on avait tout bien fait, on n'en serait pas là.
Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Parce que j'ai lu Voyage au cœur du malaise français de Paul Yonet, publié en 1993, qui est réédité ces jours-ci à l'Artiller. Paul Yonet a écrit un livre sur SOS Racisme en disant, finalement, le résultat de SOS Racisme, qu'est-ce que ça va être? Ça va être le retour de la race et le retour du communautarisme. Pour ce livre, il a été cloué au pilori, il a eu une mort sociale. Ce livre est réédité ces jours-ci et tout ce qu'il a écrit est prophétique. Et il disait quoi? SOS Racisme porte bien son nom parce qu'il va sauver le racisme.
Maître Jakubowicz, vous êtes foutu parce que vous êtes pris entre Eugénie Bastier et le wokisme qui vous dit, vous pouvez raconter ce que vous voulez, vous faites partie de ce système d'oppression blanche, hétéro, patriarcale. Donc vous avez tort sur les deux plans, donc vous êtes mis tout seul dans un piège.
Jean-François Bronstein.
Oui.
Intéressant notre
cause.
Intéressant.
Un avocat, je suis là.
Intéressant les arguments de Génie.
Très juste,
peut-être. Et à votre corps défendant, bien sûr, que vous n'avez pas vu. C'est de la même manière que, Elisabeth Badinter, je les cite sans arrêt, Elisabeth Badinter. Le Nouvel Obs à l'époque. Ils n'ont pas vu venir tout cela. Ils n'ont pas vu.
Non, Badinter, elle a signé en 89. Elle a signé en 89, Elisabeth Badinter, la tribune contre le voile à l'école.
Badinter, Debray.
Voilà, Régis Debray. Je cherchais le nom de Régis Debray.
Il faut bien se rendre compte que plus vous dites que vous n'êtes pas raciste, plus vous êtes considéré comme raciste. C'est ça le cœur de la pensée woke. C'est-à-dire, pour eux, la proposition la plus raciste, c'est de dire je ne vois pas les blancs, les jaunes, les noirs. Je ne me préoccupe pas de la couleur. Moi, je ne me préoccupe pas de ma couleur. Je ne suis pas raciste. Ça, c'est du racisme. Parce que pour être dans la bonne norme woke, il faut considérer la couleur des gens pour discriminer en faveur de ceux qui sont considérés comme des victimes, etc. Et donc c'est ça qui est très étonnant, c'est qu'effectivement, la pensée woke, c'est une pensée qui veut remettre la race au cœur de la question. On peut voir d'ailleurs le ministre de l'Éducation nationale qui dit « on ne parle pas assez de race en France à cause de l'extrême droite ». Mais non, on ne parle pas assez de race parce que la France était un pays républicain, universaliste, on ne considère pas la couleur des gens. Eh bien ça, c'est la proposition principale des woke, c'est celle qui me rend dingue, moi aussi. Je ne supporte pas
alors,
ça,
je lis votre livre.
C'est la réalité.
Et c'est pour ça que pour ceux qui, comme moi, sont battus pour cet universalisme républicain depuis toujours, on est d'odieux racistes.
Voilà. Alors, je lis quelques passages de votre livre. Nous sommes face à un changement extrêmement radical. Il ne s'agit pas simplement d'une nouvelle idéologie, mais d'une nouvelle croyance, d'une nouvelle religion. Certains auteurs américains sont persuadés qu'il s'agit là de la prochaine religion américaine qui veut effacer toute la mémoire historique de la civilisation, comme le christianisme devenu religion d'État au IVe siècle avait voulu effacer l'ensemble du monde gréco-romain. Pensez pas que c'est une... séquence qui va durer 5 ans, 10 ans.
Le monde
5 ans, 10 ans, d'accord. Comme le maoïsme, j'ai envie de dire, dans les années 60, l'ultra-gauche et que tout ça va disparaître.
Je ne pense pas. Il y a un journaliste américain qui dit très bien, nous vivons tous sur les campus maintenant. C'est-à-dire que tous les jeunes qui sont formés dans les facs de lettres et sciences humaines, mais aussi maintenant de sciences ou de médecine, arrivent sur le marché, dans leur vie professionnelle, et à la tête des médias, des grandes entreprises, les GAFAM sont entièrement favorables à la théorie du genre, à la théorie de la race.
Vous rappelez la théorie du genre, précisément?
La théorie du genre, c'est l'idée qu'effectivement, ce qui compte, c'est la conscience que l'on a d'être homme, femme ou n'importe quoi d'autre. Maintenant, la question, c'est souvent n'importe quoi d'autre. Non-binaire, asexuel, voire eunuque. Maintenant, il y a toutes sortes de choses qui apparaissent non-stop. C'est des choses complètement déliantes. Et c'est pour ça que je parle de religion. Parce que pour croire que notre corps n'existe pas, que la biologie n'est pas une science, il faut effectivement être entré dans une autre dimension.
Mais Pascal, la différence entre le maoïsme et le wokisme, c'est que le maoïsme n'était pas enseigné à l'école. Or, le wokisme est enseigné à nous.
Il était présent dans l'université.
Pour moi, ce qui est important, c'est le mot religion. Je trouve que c'est très juste de qualifier ça de religion. Mais est-ce que vous ne croyez pas que précisément, c'est une religion protestante, en tout cas puritaine, anglo-saxonne, et que finalement, en France, parce qu'on a l'héritage catholique et l'héritage, j'allais dire, cartésien, de rationalité, on résiste un peu mieux à cette espèce de fièvre, pour moi c'est une hérésie anglo-saxonne. Et nous, on est un peu plus vaccinés contre ça. La preuve en est, vous écrivez ces livres, beaucoup d'intellectuels de l'université protestent contre le wokisme.
Très peu d'intellectuels.
À la Sorbonne, il y a eu quand même
un colloque avec 70 personnes, on y avait tous les résistants, et tous nos collègues ont fait pétitions, articles, manifestations.
Mais la Sorbonne, c'est quand même le cœur de l'université.
Oui, on ne résiste pas, Génie, c'est une lame de fond.
Vous êtes professeur de philosophie à Paris. Vous êtes professeur de philosophie.
Émérite, ça veut dire que je suis plus professeur de philosophie depuis un an. Et je suis content d'être parti. J'ai été extrêmement isolé. Ce colloque à la Sorbonne, on n'a pu le faire à la Sorbonne que parce que le recteur nous a donné une salle. Aucune de nos universités n'a voulu nous donner de salle. Il y a eu des protestations partout. Et je vous dis, les résistants, malheureusement, on se connaît tous, on est une centaine peut-être. Et donc, de ce point de vue-là, je ne pense pas que le catholicisme soit un peu préservatif, si je puis dire, puisqu'il est mort d'une certaine manière aussi.
L'héritage
et les Lumières,
Dominique Jamais.
Les Lumières sont mortes.
Dominique Jamais.
L'héritage des Lumières est mort.
Dominique Jamais.
Ce qui est clair, qui est évident, c'est qu'un certain équilibre, une civilisation fondée sur la laïcité et la tolérance, est prise en étau à l'heure actuelle entre les plus éveillés, entre guillemets, qui nous viennent des États-Unis, et les moins éveillés, qui sont les obscurantistes islamiques. Nous sommes menacés des deux côtés.
Mais ils sont alliés. Souvent, je souligne.
L'idée, c'est moins de lumière.
Emmanuel Macron, il n'est pas sur cette ligne. Macron,
il envoie des signes.
S'il vous plaît. Non, mais attendez, mais vous n'êtes pas un peu de écouter Monsieur Bronstein. Je suis obligé de faire. On dirait deux élèves dissipés.
Oh, non, mais mettez pas dans le coup là.
Franchement, bon. Emmanuel Macron, il n'est pas sur cette ligne quand même.
C'est qu'il est sur cette ligne. Les deux préoccupations.
Jean-Michel Blanquer, il n'était pas.
Jean-Michel Blanquer n'était pas sur cette ligne, même s'il n'a pas résisté suffisamment sur la question
du genre. Alors souvent, c'est ce que je dis. Moi, je trouve qu'ils ne se battent pas, ceux qui nous gouvernent, pour nos valeurs, pour notre histoire, pour notre culture.
Ce qui est très inquiétant dans toute cette histoire, c'est pas que c'est simplement une religion, c'est que c'est une religion universitaire. C'est la première fois dans l'histoire qu'une religion prend naissance dans les universités, alors que jusqu'à présent, les universités, c'était la laïcité, les lumières, la critique.
Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est perdu ou pas?
Ben, moi, mon espoir, c'est que les gens ordinaires, comme dirait Orwell, se rendent compte qu'on enseigne des absurdités à leurs enfants.
Oui, mais ils ont peur.
Les parents...
Ceux qui ne pensent pas comme cela.
Ah, dans les universités, c'est mort.
Hein. C'est mort.
Dans les universités de lettres et sciences humaines, c'est mort. Moi, j'espère juste que les scientifiques vont se rendre compte.
Et c'est vrai à Sciences Po, les grandes écoles aussi?
Sciences Po, si vous regardez la liste des principales personnalités aimées par les gens de Sciences Po, c'est Alexandria Ocasio-Cortez qui dit, lorsqu'on lui dit « vos chiffres sont faux », il dit « c'est pas grave, c'est pour le bien ». Donc l'exactitude, c'est un truc bourgeois. C'est un truc masculin, donc ça va très loin. La deuxième, c'est Jacinda Ardern, maintenant, qui veut se ficher le monde entier.
Mais parce qu'ils sont recrutés.
Bah, ils sont recrutés sur ces critères.
Voilà, c'est ça, nous sommes d'accord.
Il y a plus d'épreuves de culture générale à Sciences Po. Mais bien sûr,
c'est-à-dire qu'ils sont recrutés.
Générale à Sciences Po.
Très important ce que vous dites. C'est-à-dire qu'ils sont recrutés dans l'entretien, donc tu recrutes, t'as en face de toi les gens que tu veux avoir.
Avant, il y avait quelquefois des bons élèves qui passaient. Là, il y a uniquement ceux qui sont dans la.
Et pareil, dans
la ligne du parti.
Exactement. Les écoles de journalistes, on n'en parle même pas.
Ça, c'est pire encore.
C'est pire encore.
Mais alors, dans toutes les facs de lettres et sciences humaines, c'est déjà le cas. C'est-à-dire que plus personne n'ose parler. Moi, je peux parler, et j'ai parlé quelques fois parce que j'étais en fin de carrière ou autre, mais mes jeunes collègues me disent quelquefois, tu as raison, mais tu comprends bien que je ne peux pas parler parce que je ne suis pas titularisé, j'ai des étudiants qui veulent avoir des bourses de thèse, etc.
Est-ce que ce n'est pas un peu générationnel?
Quand même, tout ça est venu de France. La French Theory...
Non.
Qui a été acclimaté sur les campus américains.
Très vite,
mais il y avait des prémices hein, quand même.
Il y a une grosse différence. Les auteurs de la French Theory critiquaient la notion d'identité, de sujet, etc. C'était même le cœur de leur pensée. Là, c'est des penseurs ultra-identitaires.
Oui, bien sûr.
Si on dit ça, c'est pour se faire plaisir. On a envie de se dire, waouh, c'est nous aussi qui avons inventé cette catastrophe.
Non, ça ne me fait pas plaisir. Bon,
monsieur Bronstein, la question heure des pros. Oui. La question heure des pros, que je pose à tous les gens parfois que j'invite. Vous allez être invité à France Inter?
Je n'ai absolument aucune invitation de France Inter.
Vous allez être invité, notre ami Léa Salamé, par exemple, qui vient de faire une émission, visiblement, qui s'appelle « Quelle époque ?». Bon, c'est intéressant. Vous allez être invité chez elle?
Je ne pense pas.
Vous allez être invité?
Je ne pense pas, c'est pour ça que je viendrai avec plaisir chez vous.
Non, mais c'est très intéressant. Vous allez être invité à l'émission, c'est à vous, c'est Anne-Elisabeth Lemoine, ou c'est dans l'air?
Non,
sur le service public, est-ce que vous allez...
C'était prévu avant les vacances, et bizarrement, ça s'est évaporé depuis que sans doute ils ont lu mon bouquin.
Non, mais je vous assure, c'est absolument sidérant. Je prends à témoin les téléspectateurs.
Où est le sectarisme?
Mais voilà. Bon, alors...
De toute façon, on ne discute pas avec les dissidents.
Léa Salamé, je l'appelle Léa Salamé. Moi, je voudrais que... elle est passée par cette chaîne. Chère Léa, invitez Monsieur Bronstein. Et là, vous montrerez votre courage intellectuel. L'antiracisme contemporain a pour principal but d'élargir au maximum le champ de l'accusation du racisme, écrivez-vous. Il s'agit de montrer que l'histoire occidentale a toujours été raciste et que cela invalide l'ensemble de ses productions culturelles, scientifiques, artistiques ou techniques qui sont désormais toutes racistes et par ailleurs virilistes. Tout ce qui a été produit pendant notre passé honnit et de fait raciste et sexiste. Ces affirmations sont désormais reprises par bon nombre d'universitaires occidentaux. Là aussi, quiconque les conteste est dénoncé sur les réseaux sociaux, qualifié de raciste ou de suprémaciste blanc et si possible chassé de son poste. Exagérez quand même un peu.
Aux États-Unis, c'est le cas.
Aux États-Unis, oui.
Ici, c'est compliqué parce qu'il y a encore effectivement le statut de la fonction publique. Mais par exemple, il y a un chargé de cours qui avait eu le malheur de faire une conférence pour la manif pour tous. Il n'a pas été renouvelé dans sa charge de cours. Je cite l'affaire. Klaus Kinzler, maître de conférence qui discute l'islamophobie, il y a des panneaux pour le critiquer. Alors, il n'a pas été vraiment renvoyé, mais enfin, quand même.
Non, mais la directrice, c'est l'IEP de Grenoble, l'a sanctionné. Et Mme Vidal, qui était ministre des universités... Elle n'est plus là d'ailleurs et finalement on ne se rendait pas compte qu'elle était là avant, donc il n'y a pas eu de changement. Mais moi ce que je regrette c'est que ces gens,
Si, parce qu'elle était un peu intervenue dans le débat, ce n'est pas complètement inutile.
Mais tu dois y aller, ce n'est pas intervenir qu'il faut.
Dans ce désert, Pascal, dans ce désert.
Il faut y aller, je veux dire, ou alors tu cèdes surtout. L'écriture inclusive par exemple, parlez-moi de ça.
L'écriture inclusive, tous les messages en général dans les universités sont en écriture inclusive. Et l'idée c'est de montrer qu'on se plie à la nouvelle norme. C'est-à-dire que, en fait, tout le monde s'en fiche de ce truc-là, c'est impraticable, il l'oublie dans le cours du message. Mais il faut quand même cher.e. .s ou les plus militants, cher.e.s.x pour les non-binaires, pour ne pas discriminer les non-binaires.
Il y a même d'autres formes encore plus...
Oui, des formes plus complexes.
Ouais, mais plus complexes, oui.
Cher.e.s.x, c'est quelque chose qui est assez c'est courant. Ça, c'est ne, ça n'a pas de sens. Et quand on demande à nos collègues pourquoi ils font ça, ils disent pour ne pas avoir d'ennuis. Ceux qui ne sont pas d'accord disent pour ne pas avoir d'ennuis. C'est ça, il faut juste marquer la soumission.
C'est la vieille dialectique entre la dictature et la dissidence.
Le communisme. Voilà.
Exactement. Ça fait beaucoup penser à ça.
Bien sûr, c'est exactement.
Ça fait beaucoup
penser au communisme. Alain Jakubowicz.
Les plus réveillés contre ça, c'est des anciens des pays de l'Est.
Alain, oui. Vous avez raison. Moi, je connais.
Par exemple, il y a un immense mathématicien roumain aux États-Unis, Sergiu Kleinerman, qui dit c'est comme les pays de l'Est, sauf que là-bas, on me laissait faire des mathématiques. Ici, en Roumanie, on me faisait laisser faire des mathématiques. Ici, on dit que les mathématiques sont racistes et virilistes, donc il faut que je m'excuse de faire des mathématiques.
Alain, votre parcours, on le connaît. Vous avez commencé, vous êtes plutôt un homme de gauche, de sensibilité de gauche, disons-le.
Mais, c'est vous qui le dites.
Mais vous allez finir réactionnaire. Vous allez finir à mais vous allez vous retrouver avec déjà avec dans le camp d'Éric Zemmour et de tout
camp.
Et c'est ça le paradoxe de notre société parce que toutes vos valeurs et c'est vrai aussi pour Éric Nolot, toutes vos valeurs d'universalisme, d'intelligence, de nuance, de culture, tout ça est mis à mal par ce qui arrive.
Oui, mais si je peux...
Et qui défendra ça? Ce seront les gens que j'ai cités tout à l'heure.
Moi, je pense que je m'honore de ne pas avoir varié, je ne varierai pas dans ma conception de la société, dans ma vision de notre société, de la société française, de ses valeurs républicaines, de laïcité, qui sont celles qui m'ont
laïcité,
fabriqué.
Mais laïcité, ça ne veut plus rien dire mais, pour les gosses de 20 ans.
Non, mais attendez, mais moi je...
Les Lumières, c'est leur cible. Les woke sont en style aux Lumières, à l'universalisme, à l'individualisme, à l'idée de droit, à l'idée de progrès, à l'idée de raison.
Encore une fois, c'est comme pour le néo-féminisme. Je pense que la révolution dévore ses enfants et que finalement, vous vous faites aujourd'hui dévorer par vos héritiers. Parce que qui, dans les années 80, a dit finalement il n'y a pas d'individus, il y a des communautés, black, blanc, beurre, on ethnicise la communauté blanche. Je ne parle pas de vous, mais les antiracistes années 80, sauf ces années 80, finalement, ils ont produit finalement ce wokisme qui n'est qu'une radicalisation, une décomposition de cette idéologie des années 80.
Il y a deux hypothèses. Ou bien effectivement, l'idéologie woke et tout ce qui va autour l'emporte avec la connivence de la gauche et face à la lâcheté ou à l'impuissance des gouvernements successifs. Ou alors, on verra ce qui... n'était vraiment pas ce que l'on pouvait attendre. On verra la droite, pour l'appeler par son nom, recueillir et défendre des valeurs qui étaient autrefois celles de la gauche et que la gauche a abandonnées.
N'écartez pas d'un revers de main l'autre gauche, que je me flatte de représenter ici. Il faut que la gauche redevienne la gauche, qu'elle redevienne laïque. Cette gauche existe encore.
Mais bien que vous soyez laïque, c'est un vœu.
Mais moi je crois que c'est foutu, mais ça n'empêche pas de se battre.
Non. Vous croyez que c'est foutu?
Je pense que c'est foutu parce que la lame de fond est telle que...
Non, mais le canton...
C'est ce que je suis en train de vous dire.
Mais ce ne sera pas la droite, ce sera la gauche.
De la même manière que la gauche a abandonné, comme on le sait, le drapeau, la patrie, la famille à la droite, de la même façon, la gauche abandonne.
Il y a une réaction, radicale.
La gauche abandonne progressivement la laïcité à la droite.
Bah oui, Olivier Faure en est un témoin.
Olivier Faure n'est pas la gauche.
Il dirige le PS.
La gauche.
Il dirige le PS.
Giorgia Meloni en Italie a gagné aussi sur un discours anti-woke, notamment sur le genre. Ça a été un grand axe de la campagne. Et du coup, cette gauche-là sert finalement la gauche radicale qu'elle prétend combattre.
C'était ce qu'on disait quand on vous a reçu au tout début. C'est-à-dire que ça, c'est une minorité active qui est dans l'université, qui est chez les intellectuels, chez les artistes, pourquoi pas, dans le monde médiatique et journalistique. Mais si vous sortez dans la rue, les gens, ils disent c'est n'importe quoi.
Oui, c'est le seul aspect, moi, que je pense positif. Je pense que les gens ordinaires vont se rendre compte de ces choses-là et peuvent réagir. Et un homme politique sensé devrait, effectivement, on le voit aux États-Unis, ou dans un État comme la Virginie, où il y a toujours des gouverneurs démocrates, on a élu un gouverneur républicain sur le simple fait qu'il a dit « on n'enseigne plus la théorie critique de la race et la théorie du genre aux enfants à l'école ». Donc c'est quand même quelque chose qui est positif. Moi, je pense que c'est possible. Mais en revanche, l'autre aspect négatif, c'est que ceux qui soutiennent au maximum toutes ces théories, c'est les GAFAM, c'est les grandes entreprises. Ça colle tout à fait avec le monde du métavers.
Et ça colle pas, c'est-à-dire qu'ils récupèrent.
Oui, oui, mais ça colle.
Le capitalisme récupère. Monsieur Bronstein, le capitalisme récupère parce qu'il n'a pas le choix.
dans l'entreprise, il comprend que pour vendre sa camelote, si j'ose dire, il récupère ses idées-là.
Alors, on peut espérer aussi que les gens...
Il pense rien, le capitalisme.
Non, mais on peut espérer, par exemple, que des gens qui sont candidats dans une entreprise, lorsqu'on leur demande à l'entrée, est-ce que vous êtes LGBT, etc., il y en a quelques-uns qui disent, bon, ok, je prends une autre entreprise, tant qu'ils peuvent choisir. Parce que, effectivement, il faut réagir comme ça, partout. C'est-à-dire qu'il faut réagir à l'école, à l'université, dans les médias, etc.
Je voulais vous citer simplement Nathalie Cricorian, que j'ai citée tout à l'heure, et vous allez peut-être pouvoir lui répondre, parce que c'est intéressant ce qu'elle dit. Elle est universitaire et elle est sur ces sujets-là. Ce qui est édifiant, écrit-elle, et au centre de mon travail sur les idéologies, c'est l'inconscience avec laquelle les antiracistes des années 80 ont ouvert la voie à ce qu'Arendt appelle la pensée raciale et que développe la théorie critique de la race, qui est au cœur du wokisme. Contrairement à Bronstein, pour moi, il ne s'agit pas d'une religion, même si en effet la théorie woke repose sur une violente critique de la raison.
Oui, c'est une religion anti-lumière, ça je le montre dans le livre. Mais effectivement, il me semble qu'il y a, de ce point de vue-là, l'idée principale des woke, c'est de rester dans la communauté. C'est un tribalisme, c'est une pensée tribale. Et le grand auteur américain Bret Easton Ellis explique bien, il dit, les woke, ils veulent en finir avec l'individu. Ils veulent en finir avec des gens qui peuvent choisir leurs identités, leurs appartenances, leur religion, leurs choix, etc. Il faut penser d'une manière tribale. Alors, est-ce que ce n'est pas l'héritage d'un antiracisme dévoyé, je suis tout à fait d'accord.
Bret Easton Ellis, qui est lui aussi passé du côté réactionnaire, si on en croit les wokistes.
Pour ma part, je suis un homme des Lumières. Je suis un homme des Lumières républicains. Je suis comme à l'université. L'université, c'est l'argumentation, la tolérance, l'échange d'arguments et la recherche de la vérité, l'effort vers l'objectivité. Tout ça, c'est balayé par les woke. Ils ne veulent plus d'objectivité, ils ne veulent plus de pensée libre, ils ne veulent plus de recherche...
Et en même temps, paradoxalement, la théorie du genre permet justement un choix individuel en fonction de ne pas être homme, femme,
il y a des paradoxes. Ça semble paradoxal entre la race et le genre. Mais en fait, ce qui est important dans le genre, c'est de devenir trans, de faire partie d'une nouvelle famille, ce qu'ils appellent souvent leur glitter family, la famille avec des paillettes, la famille des trans. Et donc, c'est quand même l'idée de pensée tribale. Alors, il y a effectivement des contradictions, parce que logiquement, on pourrait envisager de changer de race, être transrace, ça a existé, mais ça c'est un blasphème absolu parce que le noir, on ne peut pas désirer être noir quand on est blanc, c'est une mauvaise plaisanterie. Et donc, il y a eu une histoire comme ça, Rachel Dolezal, tout le monde lui est tombé dessus, donc c'est très paradoxal, effectivement. Bon, ce n'est pas une pensée unifiée et rationnelle.
On est entré dans un asile, quoi, en fait. Avec des fous dans tous les sens.
Ce sujet passionnant nous a peut-être éloigné, d'ailleurs peut-être pas tant que ça, du thème que vous avez lancé, qui était celui de l'entrisme à l'école, et notamment de ce fanatisme qui est fait que l'on essaye de monter les enfants pour aller contre la laïcité à l'école. ce que moi j'appelle cette stratégie des marches, des fanatiques qui testent la démocratie chaque jour et qui, chaque fois qu'ils gagnent un petit peu, et là c'est une nouvelle bagarre qui a déjà été faite, qui a été perdue un moment, et qu'ils relancent aujourd'hui, et qui est pour moi absolument terrifiante, et qu'on voit, et c'est pour ça que j'ai donné l'exemple, qui peut paraître marginal, du barreau, mais qui montre bien qu'il y a là un sujet, alors pour le coup, effectivement, qui est un vrai sujet de société.
Sur ce point, je dirais qu'effectivement, il faut voir d'un point de vue global, c'est-à-dire que les adversaires des démocraties se servent de ce wokisme, et en particulier les islamistes, Agi+, la chaîne jeune du Qatar, fait la promotion des LGBTQI, etc., alors qu'on sait ce qui se passe au Qatar pour les simples homosexuels, appelle à la lutte des races et des colonisés en France. Donc c'est un instrument...
C'est l'alliance des fanatismes.
Il est absolument indécent qu'en contrepoint de l'insurrection iranienne où des femmes et des hommes affrontent les balles et meurent pour avoir le droit de rejeter le voile et de rejeter l'obscurantisme, que se développe en France une offensive islamiste pour remettre sur le terrain la question du voile que l'on a dit à maintes reprises depuis maintenant 30 ans, résolue par des lois, qui sont violées à peu près aussitôt qu'elles
ont été. Mais il y avait également, et on n'en a pas parlé, une campagne européenne, le programme de l'Union européenne, le 2022, ayant pour objectif de célébrer les réalisations des enseignants et des écoles et reconnaissez leur travail, c'est à travers une petite fille qui est voilée. Je ne sais pas si on peut voir l'image d'ailleurs, l'affiche de campagne de la commission de l'euro. Est-ce que Marine a cette image? Est-ce qu'elle peut nous la proposer? Marine, elle me dit oui, donc elle va vous la montrer. Et ça, c'est
c'est effectivement la communauté européenne qui communique avec une jeune fille dans une classe qui est voilée. Et voilà, c'est une enfant. Et voilà, là encore, et on ne se bat pas pour la tradition, la culture. Ben oui, c'est inadmissible, mais personne ne se bat.
Et le paradoxe, c'est que ce sont des musulmans convertis aux Lumières qui ont été les plus efficaces combattants de la laïcité dans l'histoire, ainsi Atatürk, ainsi Nasser, et ainsi naturellement Bourguiba.
Et Bourguiba, bien sûr.
Avait éliminé le voile.
Bien évidemment, il y a une conférence de presse très célèbre de Nasser, je crois, ou de Bourguiba sur ce sujet. Il est 10h30.
Quand la NUPES produit un communiqué de soutien aux Iraniennes, il ne mentionne pas le voile, et pourtant la raison pour laquelle ces femmes se font assassiner, parce qu'elles l'ont ôté. Voilà où on en est.
Audrey Berthaud, il est 10h30.
Des policiers ont été visés par des tirs de mortiers d'artifice cette nuit à Alençon. Une vingtaine de véhicules ont également été brûlés. Les faits se sont produits entre 23h et 2h du matin dans le quartier de Persaigne. Selon le maire de la ville, des policiers extérieurs à Alençon ont dû intervenir en renfort cette nuit. Le rappeur Kaaris a été placé en garde à vue hier. Il est accusé de violence par son ex-compagne. Kaaris est un rappeur de Sevran en Seine-Saint-Denis. Son ex-compagne a porté plainte le 7 juillet, entraînant l'ouverture d'une enquête préliminaire à Évry. De son côté, Kaaris a porté plainte pour dénonciation calomnieuse. Enfin, après le défilé Yves Saint-Laurent, regardez ces images du défilé Dior hier, toujours pour la Fashion Week de Paris. La maison Dior a présenté son défilé printemps-été au cœur du jardin des Tuileries. Un show inspiré par Catherine de Médicis et l'esthétique Renaissance. Un rendez-vous auquel de nombreuses actrices ont assisté, Camille Cotin, Isabelle Adjani ou encore Nathalie Portman.
Donc les gens étaient plutôt nus, pas tout à fait. Bon, la religion woke, vous pourrez lire ça avec votre bonnet dans votre maison à 14 degrés, je vais vous le donner tout de suite, c'est chez Grasset et c'est Jean-François Bronstein. C'est vrai qu'on a pris du temps pour vous écouter, mais je trouve que c'est... D'abord, le livre est passionnant et vous étiez effectivement extrêmement intéressant pour expliquer ces phénomènes. Justine Cerquera était avec nous. Merci à Arnold Cara qui était à la réalisation, à Jean-François Couvlar qui était au son, à Ludovic Liebar qui était à la vision. Merci à Marine Lançon, bien sûr. Justine Cerquera, je l'ai dit. Jean-Marc Morandini dans une seconde.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.